L'actualité culturelle et artistique de votre région avec Mag Culturel sur Radio Alpes-Mancelles.
Aujourd'hui, nous allons parler du Festival de musique de chambre au prieuré de Mayenne. Pour cela, nous recevons Monsieur Klogen, propriétaire de ce prieuré. Alors, Monsieur Klogen, bonjour.
Oui, bonjour, Joséphine.
Pour commencer, présentez-vous.
Oh ben, écoutez, je m'appelle Jürgen Klogen, comme un nom un peu exotique dit, je ne suis pas d'origine française, mais d'origine allemande, je suis allemand. J'ai un grand amour pour la France depuis assez jeune. J'ai épousé d'ailleurs il y a plus de 50 ans, je suis un petit vieux, hein, une jeune philosophe française à l'époque. Nous étions tous les deux même des étudiants en philosophie. Bon, malheureusement, j'ai perdu il y a pas si longtemps ma chère épouse, mais je veux absolument en sa mémoire continuer ce que nous avons fait depuis 50 ans, c'est-à-dire sauver ce lieu extraordinaire qui est classé monument historique que nous avons cherché pendant quelques années après notre mariage il y a longtemps, et nous avons élevé nos enfants également ici dans ces lieux en grande partie de leur vie. Et voilà, alors je pense qu'un lieu comme celui-là est quand même très important, pas simplement comme ça pour s'amuser, cela, mais ce sont les mémoires de notre société, les mémoires de notre pays de France et même de l'Europe. Parce que, évidemment, les bénédictins qui étaient ici, ce n'étaient pas uniquement des bénédictins. Ça se plaçait dans un ensemble européen. Et à ce moment-là, nous sommes quand même très, très précieux aujourd'hui, vous savez. Ce n'est pas simplement comme ça un lieu d'amuser. C'est quelque chose de sérieux. Ça n'empêche pas de faire, par exemple, aussi bien les expositions contemporaines que des concerts tout à fait contemporains. Vous voyez, par exemple, cette année, nous avons à travers les siècles un panorama de concerts que nous proposons qui montre bien que c'est l'ouverture à la totalité que nous pratiquons, bien sûr, à tout ce qui se passe. Il y a par exemple un très très beau concert de jazz prévu le 30 juillet, mais il y a aussi un concert de musique baroque dont on peut parler plus précisément tout à l'heure. Voilà, donc je me présente d'une façon impromptue là.
Alors en effet, vous êtes propriétaire de ce lieu du prieuré de Mayenne. Depuis quand?
Depuis 1972, oui.
Et quelle est l'histoire de ce prieuré?
Avec l'histoire de ce prieuré, il fallait la déterrer totalement parce que c'était un lieu totalement oublié. C'était en fait, ça s'est révélé d'être un lieu déjà très ancien qui remonte au Moyen-Âge, même plus. Il y a des traces jusqu'à la préhistoire, tout dans les environs, ici à Dangeul, mais ça s'est révélé être à partir, mettons, de la fin du XIe siècle et le XIIe siècle, lieu principal de gestion et d'administration de la fameuse abbaye, l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, qui est donc la plus ancienne abbaye du Mans, fondée au VIe siècle. Et le prieuré de Mayenne était le lieu, le centre d'administration. Vous savez qu'un prieuré, c'est un lieu d'administration, c'est un chef-lieu détaché d'une abbaye. Et pour le Nord-Sarthe, donc, il y avait à peu près des biens fonciers, des biens aussi religieux, c'est-à-dire églises ou aussi bien des moulins que des églises, qui étaient gérés à partir de ce lieu-là, sur une vingtaine de communes dans le Saônois. Voilà, ça, c'est le petit résumé, mais à partir, à l'intérieur de tout cela, il y a évidemment à toutes les époques, soit des événements, soit des traces architecturales, soit des choses dont on parle relativement peu, parce que ça a été peu étudié, notamment qui touchent à la mystique médiévale, dont on fait aujourd'hui facilement un peu de l'ésotérisme, et qu'il faut un peu replacer dans le vrai contexte. Nous avons ici, par exemple, trois bâtiments, qui sont en fait trois monuments historiques classés, qui représentent l'ensemble du prieuré. C'est pas uniquement un bâtiment comme un presbytère ou quelque chose comme ça. C'est un ensemble et qui porte dans ses pierres même un message. Vous avez, par exemple, des orientations de certains bâtiments, comme par exemple l'ancienne aula où nous faisons les concerts. Et c'est assez extraordinaire. Ce bâtiment est orienté de telle sorte que, comme en ce moment nous le voyons, il y a l'époque du solstice encore, où au moment du solstice, par exemple, le soleil se couche du côté du Mont Saint-Michel et la direction traverse le bâtiment par sa croix qui est au-dessus et qui est en direction directe jusqu'à Jérusalem, et si on continue même jusqu'au Madras dans le sud de l'Inde. On touche là une histoire spirituelle qui est tout à fait étonnante, qu'on n'a pas vraiment étudiée. Mais il y a plein d'éléments matériels, que ce soit par exemple la salle dans laquelle nous faisons nos concerts, qui est absolument splendide, extrêmement sobre et simple, mais il y a des éléments sur lesquels je peux pas entrer en détail là tout de suite pour cette interview. Il y a quand même des éléments absolument étonnants et intéressants qui peuvent donner lieu aussi à une visite documentée et qui souvent passionne les visiteurs qui viennent nous voir. Donc il n'y a pas que un festival, il y a aussi un lieu qui, alors dernièrement, est aussi un lieu de vie. Nous ne voulons pas tomber dans une sorte d'auberge espagnole. Bon, ce n'est pas méchant ce que je veux dire, mais le type purement administratif, c'est un lieu de vie. C'est-à-dire, moi-même, je vis ici, maintenant, je suis un peu seul, mais j'ai une grande famille que j'ai fondée avec mon épouse. Nous avons commencé à deux il y a longtemps, et nous sommes arrivés à 30 et quelques, aussi bien dans toutes les professions, mais tous, il y a quelque chose qui nous relie, tous, c'est la culture, et notamment la musique.
Et justement, pourquoi avoir mis en place un festival de musique de chambre ?
D'une part, parce que ici, le lieu ne se prête pas pour un opéra. Tout un opéra de plein air. Mais le plein air, il nous fait de bonnes surprises avec des orages, avec tout ça. Donc là, nous avons une salle à l'intérieur pour laquelle nous limitons le public à maximum 100 personnes. On pourrait être plus, mais il faut avoir un peu d'espace pour vivre la musique d'une façon en loisir. Non pas avec un S, mais sans S. Le loisir, c'est pas la même chose que les loisirs. Les loisirs, c'est une, aujourd'hui, c'est une activité très lucrative, économique, etc. C'est très sympathique. Mais c'est à nouveau notre société productiviste qui fait tourner l'affaire autour de la culture. C'est peut-être très bien. Ça crée des emplois aussi d'artistes, etc. Mais le loisir, c'est autre chose. C'est de se retrouver dans le calme, quelque part, dans un lieu qui est loin du bruit du marché, qui est assez sympathique aussi, mais on se noie un peu beaucoup, dans beaucoup de bruit, un peu partout. Et même dans les médias, vous le savez très bien. Alors, donc, ce que nous voulons, là, ici, depuis toujours, c'est pour ça que nous nous sommes installés là, au départ, c'était le déclencheur, trouver un lieu qui soit un petit peu à part, un peu où l'on peut se retrouver tout seul, avec des amis, en famille. Et je pense que les personnes qui sont extrêmement fidèles, notamment nous avons un public quand même très fidèle depuis 25 ans qui vient, mais aussi beaucoup de nouveaux venus qui viennent un peu du département limitrophe, même plus loin, de Paris, de Tours, de Angers ou ailleurs, eh bien, ce sont les personnes qui ont découvert qu'il y a effectivement de se rencontrer, même dans ce qu'on n'est pas a priori, en toute amitié, de façon totalement libre, et de consacrer quelques instants, c'est une ou deux heures, ou un peu plus, parce qu'on fait aussi un petit pot après pour se rencontrer autour de nos éléments culturels, musique de chambre, d'autant plus parce que depuis toujours.
Et alors sinon, quel est le programme de cette année de ce festival? On commence bien sûr avec le 16 juillet.
Le 16 juillet, c'est donc un dimanche, et nous avons donc 6 dimanches qui se suivent à partir du 16 juillet, donc jusqu'au 20 août. Alors, le 16 juillet, c'est donc un dimanche, et comme nous faisons 6 concerts, ce sont 6 concerts de 6 dimanches qui se suivent jusqu'au 20 août. Et donc, les concerts ont toujours lieu à 16h30. Ça permet aussi de sortir de table gentiment, sans se presser. Ah, il faut absolument au concert, là, etc. On vient gentiment, à l'heure, évidemment, parce que nous commençons à le faire. Dimanche, 16 juillet, concert d'ouverture. Il y a un petit titre à cela, Rêve d'Espagne. Alors, nous avons invité pour cela deux jeunes pianistes de renom. Vraiment, vous savez, il y a une génération de jeunes et grands aujourd'hui dans la musique professionnelle qui nous fournissent quand même un travail extraordinaire. Alors là, cette fois-ci, c'est donc le pianiste Guillaume Coppola, qui est déjà venu, qui affecte particulièrement aussi le lieu. C'est une particularité d'ailleurs de beaucoup de musiciens qui viennent nous voir. Ils ont tous envie de revenir parce qu'ils vivent quelque chose. Il y a une vie aussi purement technique, par exemple musicale. Il y a un son dans cette salle qui n'a rien en commun avec un son de bande abbatiale ou d'église ou autre. Il n'y a pas de réverbération pour le piano, par exemple, ça peut être quelquefois très gênant. Il n'y a pas de piège acoustique, comme dans certains lieux. C'est un son nature, totalement nature. Et ils peuvent se livrer, là, les musiciens, comme ils veulent, tout passe. Tout passe et ils le ressentent bien aussi à la réaction du public. Alors Guillaume Coppola est donc avec son ami Hervé Biot. Ce sont donc deux jeunes, bon, ils n'ont pas 16 ans, hein, mais ce sont quand même des jeunes reconnus sur la scène nationale et même internationale. Alors, Rêve d'Espagne, c'est quoi? Je ne vais pas vous donner tous les titres qu'ils vont jouer, mais les compositeurs, vous avez Manuel de Falla, vous avez Maurice Ravel, la Rhapsodie espagnole, par exemple, de Maurice Ravel, Habanera, par exemple, de Mel Bonis, et il y a les nouvelles danses espagnoles, Emmanuel Rier, Espagne, Rhapsodie pour orchestre, mais il constitue encore un orchestre à eux deux seuls, parce qu'ils jouent sur le piano à quatre mains, et donc ça donne un volume presque orchestral à leur prestation. Voilà, ça c'est le 16 juillet.
Ensuite, le 23 juillet?
Alors ensuite, le 23 juillet, alors nous partons un petit peu plus dans l'histoire de la musique, mais qui est très prisée. Nous avons eu déjà plusieurs fois ces concerts baroques, et ça a toujours un très grand succès. Vous savez, c'est très curieux dans une société qui se veut très moderniste, etc., de voir le retour à la musique baroque aussi suivi par des publics très nombreux. Alors donc, c'est un récital baroque par un jeune groupe qui est originaire du Mans, mais qui a également fait ses réputations en dehors du Mans. Vous savez que nous avons sur place dans nos musiciens locaux, avec notre conservatoire même du Mans, nous avons produit énormément de choses qui sont exportées à l'extérieur, jusqu'à l'étranger. Il y a des musiciens qui s'installent à l'étranger, en Suisse ou ailleurs, qui ont fait tout simplement, au départ, le conservatoire du Mans. Et donc, c'est le trio Euterpia, qui est composé d'une chanteuse contralto, Lauriane Leprève, qui est la fille de M. Leprève, qui a laissé son nom au conservatoire du Mans, et puis ses compagnons, violon, violoncelle. Et alors, on nous produit des choses classiques connues, et d'autres classiques pas connues du tout. Alors, ça va de Handel par Mozart. On oublie quelquefois que Handel, c'est quand même un compositeur baroque. Hein. Alors, bon, bref, Handel, Mozart, Corelli, Lully, la plainte italienne, par exemple, de Lully, qui est un extrait de Psyché. Il y a Monteverdi, Lamento d'Ariana, l'extrait de l'Ariana. Il y a aussi des parties purement instrumentales dans ce concert. Par exemple, on n'entend pas ça très souvent, Henri VIII, qui est un compositeur aussi. Alors, si vous voulez faire un peu d'anglais à vos auditeurs, je peux vous donner des titres en anglais. Hein. It is to me a right great joy. Ça, c'est un titre très Henri VIII. Et puis, il y a une autre pièce, évidemment, d'une relation avec une dame qui est intitulée, quand même, en franco. Franco-anglais, si on veut. Hélas, madame. Et c'est interprété, là, par un trio à cordes, seul, sans voix, sans chant, uniquement dans instrumental. Ça ne s'entend pas très souvent dans nos salles de concert, ces compositions-là. Alors, il y a donc Lully, je vous dis, il y a Vivaldi, bien sûr, qui va clore le concert. Donc, avec un extrait de Il Giustino, Sento il Seno, voilà. Je pense que les musiciens, entre les morceaux, donnent quand même un petit mot à leur public qui peut donc égayer un petit peu les affaires, surtout au niveau de la compréhension, parce que tout le monde ne parle pas forcément italien, allemand, anglais ou latin. Hein. Voilà, ça c'est donc le 23. Hein.
Et on continue avec le 30 juillet ?
Alors, le 30 juillet, là, nous avons donné carte blanche le trio jazz. Alors, c'est le trio Aristide D'Agostino, une trompette extraordinaire. C'est un personnage tout à fait haut en couleur, qui est porté par un piano que l'on connaît déjà. Nous avons déjà fait venir Olivier Levaux, qui est un vrai musicien de jazz. Et puis, Thibaut Renoux, qui n'est pas encore connu trop ici dans nos régions, qui est un excellent contrebassiste. Alors, c'est un trio, donc, qui n'a pas de percussion. Vous avez donc trompette, piano, contrebasse. C'est une formation qui a été imaginée d'après une formule chère au mythique trompettiste Chet Baker. Et c'est donc un trio qui réunit trois musiciens en quête de lyrisme un peu nouveau, teinté de swing, sur un fond d'élégance, je dirais à la chaleur communicative. Ils sont très communicatifs. Donc les morceaux sont interprétés alors entre des créations personnelles ou des reprises interprétées à leur manière, comme dans le jazz. Le jazz, il vit quand même beaucoup de l'instantané. Alors, la reprise de quelques grands standards qui sont réinterprétés, influencés par des gens comme Miles Davis, Chet Baker, Art Farmer et toute la riche palette des gens comme Wynton Kelly ou Red Garland, Tommy Flanagan et les grands classiques Oscar Peterson et Bill Evans. Alors, je pense qu'ils pourront emporter leur public en toute sérénité vers des horizons à la fois nouveaux, mais avec des repères traditionnels qu'ils connaissent déjà, et puis 10, 20 ou 30 ans, peut-être, en menant un discours audacieux, très contemporain, mais toujours chantant, si swing veut dire chantant. Voilà, ça c'est le 30 juillet.
Ensuite, bien sûr, le 6 août.
Eh ben voilà, bien sûr, oui. Alors là, un fidèle déjà du lieu et un passionné du lieu, Billy Heidi, un des grands pianistes français et même internationaux, et qui vient avec un jeune ténor, Benjamin Nouveau, et il nous présente un récital piano et chant. Alors, ça se résume, si vous voulez, sous un titre un petit peu provocateur, Voyage insolite entre chant grégorien et la mort de Socrate d'Eric Satie. Alors vous voyez, le programme est là-dedans, c'est-à-dire on passe par Mozart et d'autres, mais on finit par la mort de Socrate d'Eric Satie, en commençant vraiment dans les origines même de notre musique européenne à partir du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Voilà.
Ensuite, le 13 août.
Alors, le 13 août, alors là, c'est également un grand qui est comme vraiment affilé au prieuré de Mayenne. Il est déjà venu deux ou trois fois en 15 ans. C'est Jean Dubé. Jean Dubé, c'est un des plus grands pianistes français que nous ayons. Il est très, très personnel. Il ne sort pas beaucoup, mais quand il fait un récital de piano, les gens se déplacent de loin, quelquefois. Alors là, c'est un génie du piano, sans exagération. Alors, il nous fait une petite entrée en scène au départ avec Frédéric Chopin. Alors, qui n'aime pas Chopin, bien sûr, mais il apporte des études nouvelles qui ne sont pas d'habitude et qu'on a déterré il n'y a pas si longtemps. Donc, 12 d'études de Frédéric Chopin dans la première partie. Et la deuxième partie, alors là, il va nous gâter avec quelque chose qu'on n'entend pas non plus très souvent. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Moussorgski, le compositeur donc russe, qui a laissé une création qui se joue dans le monde entier encore aujourd'hui, mais relativement difficile. Les tableaux d'une exposition. Les tableaux d'une exposition de Moussorgski. Alors, Jean Dubé nous en fait l'intégrale et c'est absolument prodigieux. C'est vraiment, les amateurs de piano savent très bien que, bon, il y en a beaucoup qui connaissent déjà Jean Dubé. Alors, il est très attaché au prieuré de Mayenne. Bon, il ne peut pas venir tous les ans au moment où ça ne serait bien, mais ça fait déjà la, je sais pas, troisième fois peut-être au moins qu'il est venu ici, et toujours avec un grand plaisir parce qu'il sait qu'il a un public, d'abord, qui le comprend, qui suit. C'est un public mélomane. Il ne faut pas être forcément un spécialiste ou un grand intellectuel pour être mélomane. Il faut tout simplement aimer la musique et voir ce qui s'y passe, qu'il y a derrière une tête de compositeur qui a suivi là-dessus, qui a laissé sa vie là-dedans, qui sont souvent morts pauvres. Et aujourd'hui, dans toutes les grandes salles, eh ben, il y a des musiciens qui les interprètent et qui déplacent les foules. Alors, donc, voilà, ici, notre public, justement, pour tout ça, il est composé. Vraiment, on peut dire, si on ne peut pas parler des classes de couches sociales, absolument, absolument, de toutes les couches sociales, que ce soit des artisans qui tapent dur dans la semaine, qui a d'autres choses, des cultivateurs à la retraite, par exemple, ou des jeunes qui sont en train de passer leur diplôme et qui veulent quand même voir un peu, tel ou tel, comme Dubé, comment il fait ça, comment il joue, et puis d'avoir contact avec lui après, dans la verdure. Voilà.
Et on finit ce festival avec le 20 août.
Donc, dimanche 20 août, là, nous attendons une surprise lyrique. Le titre est entre Leipzig, en Allemagne, en Allemagne centrale, et Séville. Des voix inavouées vers Carmen. C'est une découverte, un voyage, si vous voulez, à travers les influences des différents compositeurs européens entre Leipzig et l'Espagne qui ont contribué à sortir, finalement, Carmen. Carmen de Georges Bizet. Alors, donc, première partie, toute la préhistoire, avec Handel, avec Bach, avec Louis Spohr, qui est très peu connu en France, mais qui est quand même très célèbre. Et nous avons donc dans la deuxième partie de ce concert, Maurice Ravel, Manuel de Falla, Pablo de Sarasate, qui ont tous touché plus ou moins à des accents de Carmen. Georges Bizet va clore ce concert par le trio co-composition entre Bizet et Sarasate, les tringles des Sistres Tintin. Ça, c'est un peu un petit sourire final qui nous rappelle que les compositions, les grandes compositions très connues, très populaires, etc., ne viennent pas comme ça, donc pas du ciel, mais ont une histoire pour aboutir à des œuvres extraordinaires qui nous ravive encore aujourd'hui les temps anciens, mais en nous montrant que les temps anciens sont extrêmement contemporains. Alors, le trio qui interprète ça, il y a d'abord une chanteuse, mezzo-soprano, et bien c'est Béatrice Kludgen qui a suivi le conservatoire du Mans, mais avec son mari, ils sont installés pas du tout ici dans la région, mais dans la région de Lorraine. Elle est donc mezzo-soprano, et il s'agit de ma belle-fille, tout simplement, qui n'a jamais, je ne sais pas si c'est jamais osé, mais elle a toujours eu la pudeur, la discrétion de ne pas me dire est-ce que je pourrais pas venir un jour aussi au Prieuré de Mayenne. Elle vient très souvent au concert. Quand elle vient ici en week-end, elle répète dans la grande salle ses concerts à venir. Ou eh ben, à l'Opéra de Nancy, à l'Opéra de Metz, où elle chante aussi à Reims, elle chante en Belgique, elle chante en Luxembourg, ou à Francfort, sous la direction d'un chef d'orchestre mexicain. Mais elle n'est jamais venue ici. Et donc, c'est pour moi personnellement un moment évidemment très émouvant et un grand moment, parce que ça fallait bien quand même que ça arrive. Et elle vient donc avec un violoniste, Franck Nathan, qui est également un jeune personnage tout à fait jeune et grand, je dirais, et une pianiste extrêmement intéressante. Elle est arménienne, Karapetian, qui a eu sa formation, évidemment, en Arménie. Vous savez, dans les pays de l'Est, de ces côtés-là, c'est un travail à partir de 3 ans jusqu'à je ne sais pas à quelle époque. Elle a joué donc aux opéras des pays de l'Est et elle est installée maintenant du côté de Nancy avec ce trio de Béatrice Klödgen. Voilà. Alors ça, c'est un peu la clôture, un peu... Oh. Dans la joie, dans une joie un peu sentimentale, et c'est un très très beau programme, voilà, qui est original par l'intuition de départ, c'est-à-dire de transposer le résultat d'une recherche musicologique dans la pratique. Et bon, bah, sur le plan de la qualité, je laisse juge le public.
Alors sinon, comment on participe à ces concerts ?
Comment participer à ces concerts ? Ben, il y a plusieurs possibilités. Alors, soit on se déplace dans différents offices de tourisme, par exemple, ici, vous êtes dans le Nord-Sarthe, bon, les personnes peuvent aller, par exemple, à Fresnay, ils se font une joie de donner un petit dépliant. Ce ne sont pas uniquement des flyers, ce sont des vrais petits dépliants qui reprennent le programme un peu, déjà, et il y a là-dedans les possibilités de réserver. Il faut absolument réservé, parce que comme nous sommes volontairement limités, ça serait trop dommage de dire à des personnes, non, écoutez, vous êtes dépassés, mais il fallait quand même réserver, etc. Donc il vaut mieux. Il y en aura toujours qui viennent, donc il faut toujours quelques places pour cela, mais il faut être prudent, je pense. Il faut donc réserver à partir de ces documents. Alors, à Fresnay, à Mamers, le syndicat d'initiative, l'office de tourisme de Mamers et Bonnétable, a aussi ce qu'il faut comme documentation pour réserver. Ils nous envoient leur réservation et on confirme par une confirmation de réservation. Il y aura aussi, ça sera un petit peu plus tard, une possibilité de billetterie nationale un peu automatisée. Il y a l'office de tourisme du Mans qui est très, très porteur de ce que nous faisons également. Ils ont ce qu'il faut comme information. Par ailleurs, à Alençon, on nous connaît très bien aussi. Et puis, évidemment, pour moi, sporadiquement, dans le Sud-Sarthe ou dans certains départements limitrophes comme l'Orne ou d'autres, il y a aussi beaucoup de Parisiens, même, ou des Anglais ou des Allemands qui sont dans la région pendant les vacances, dans leur maison secondaire, autre, et qui nous demandent quelque chose. C'est d'avoir un dimanche après-midi merveilleux dans la contemplation d'une très belle musique avec des musiciens très communicatifs.
Vos contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur ce prieuré de Mayenne ?
Alors, le mail, c'est relativement simple. Je crois qu'il y a peut-être quelques petites imprécisions là-dessus, mais bon, ça va changer. C'est www.mayenne.fr. Vous voyez, c'est tout simple. Et là, il faut rentrer, il faut cliquer sur actualité ou actuelle. Et là, on peut même réserver. Il y a la possibilité, il y a toute la brochette des concerts, les conditions de réservation, les tarifs, etc. Et donc, on imprime la chose, on nous l'envoie selon les consignes qui sont données. Voilà, ça c'est une chose assez simple. Quand on a des questions, on peut m'appeler à mon téléphone sur lequel je suis là actuellement. Je peux vous donner, vous connaissez mon numéro, 06 89 11 97 72. Je répète, 06 89 11 97 72.
Un mot pour la fin ?
Un mot pour la fin, mais écoutez, c'est très simple, soyez les bienvenus au prieuré de Mayenne. Nous ne pouvons pas vous accueillir 24 heures sur 24, 365 jours par an, parce que, je vous disais, c'est un lieu de vie, mais c'est un lieu de vie ouvert. Et ouvert dans le sens complètement semblé et large du terme, et vous êtes donc tous bienvenus actuellement pour un concert. Il y aura aussi cet été des visites. Alors les conditions, c'est très simple. Il faut aussi prendre rendez-vous. Là, on n'est pas là non plus possible, disponible avec tout ce que nous faisons, tout ce que je fais notamment actuellement. Il faut prendre un rendez-vous. Et puis, selon vos connaissances, selon vos désirs, selon vos aspirations, moi-même ou éventuellement quelqu'un de ma famille peut vous donner une visite qui peut varier, mettons, quand même un minimum d'une demi-heure, trois quarts d'heure, jusqu'à 3 heures, si vous voulez. Parce qu'il y a suffisamment de quoi expliquer ici et le montrer. Et finalement, on n'est pas déçu, on est même assez étonné tout ce qu'on peut trouver dans un lieu très discret, dans les campagnes françaises et dans les fins fonds de la France, du nord de la Sarthe. Voilà.
Alors, monsieur Klödgen, je vous remercie. Je vous souhaite un beau festival 2023 au prieuré de Mayenne. Je vous dis au revoir.
Au revoir, Joséphine.